Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Maron to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Maron at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec des journalistes du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté.
Les séries audio de Podcasting, Girondins de Bordeaux, un monument en péril.
Cette semaine, Podcasting passe en mode Noël et vous propose une série de 5 épisodes entièrement dévolus aux Girondins de Bordeaux. Ils accompagnent l'interview exclusive que nous a accordée Pascal Rigaud, possible repreneur du club. Une interview que vous pourrez retrouver sur notre site et sur toutes les plateformes d'écoute. Cette semaine, donc, 5 épisodes pour raconter l'histoire de l'un des plus grands clubs de France, même s'il est quelque peu retombé dans l'anonymat ces dernières années. Nous parlerons aujourd'hui de sa genèse, nous aborderons la décennie en or des années 80 dans le deuxième épisode, avant de parler de la période 90-2010 dans le troisième volet. Nous consacrerons ensuite un épisode à ce qu'il s'est passé depuis 2009 et à l'actualité des Girondins, avant un dernier opus dédié aux supporters de ce club. Premier épisode donc de notre série, nous allons parler de la naissance du club et de son premier siècle d'histoire avec un journaliste qui a coécrit 3 livres consacrés aux Marinés Blancs, parmi lesquels L'Escure et les Girondins aux éditions Sud-Ouest. Bonjour Laurent Brun.
Bonjour à toutes et à tous.
Ces livres, je le disais, vous les avez coécrits avec un autre journaliste, Julien B. Un mot d'abord avant d'entrer dans l'histoire du club sur ce que représentent les Girondins. On a l'impression que le club rayonne sur toute une région, ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs. C'est une impression justifiée selon vous ?
Alors, c'est une impression justifiée. Néanmoins, c'est quand même, je pense, malheureusement, de moins en moins le cas. Parce qu'il faut quand même rappeler que dans la région, il y a des clubs pro aujourd'hui. Il y a les Girondins de Bordeaux qui évoluent en Ligue 1. Mais il y a aussi le Pau FC et les Chamois Niortais, la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est vrai que, théoriquement, Bordeaux est le club phare. Toutefois, depuis quelques années, on sent quand même que notamment les jeunes joueurs arrivent à franchir la frontière espagnole pour aller rejoindre et garnir les rangs de la Real Sociedad, de l'autre côté des Pyrénées, qui a lui, ce club-là, misé beaucoup sur la formation des jeunes du Pays Basque, de toutes les provinces du Pays Basque, mais aussi du Pays Basque français, et qui n'hésite pas à venir récupérer des joueurs, entre guillemets, de la formation française pour les intégrer dans ces académies. On l'a vu notamment avec Antoine Griezmann. Au-delà de ça, les Girondins doivent représenter le club, doivent être le club phare, de la région. Et c'est vrai que je pense que les dirigeants aujourd'hui essaient de travailler de nouveau sur ce procédé-là pour que les jeunes, notamment issus des clubs du CRU, puissent intégrer un jour les rangs des Girondins de Bordeaux.
La Real Sociedad que vous citiez, qui est le club de Saint-Sébastien. Alors, venons donc à la genèse du club, et d'abord du club Omnisport, qui naît en 1881. Dans quelles circonstances ?
Oui, c'est vrai que c'est un club omnisport, j'ai raison de le préciser, parce que je trouve que ça a son importance, parce que ça correspond à la période qui suit la guerre 1870, où on en a marre de se taper dessus, hein, excusez-moi pour l'expression un peu triviale, mais on essaie de faire du sport, on essaie d'ouvrir aussi le sport aux populations qui n'avaient pas forcément accès, on propose aussi la gratuité des activités. C'est vrai qu'au départ, c'est plus axé sur les catégories de gentlemen, de sportsmen, et effectivement, à Bordeaux, il y a un vivier, et on commence à pratiquer le sport, le tennis, par exemple, le lawn tennis, on l'appelle, l'aviron, des sports comme ça, le rugby aussi, et petit à petit, on glisse aussi vers le football, qui arrive notamment dans les ports français, qui arrivent du Royaume-Uni, et petit à petit, les Girondins de Bordeaux Omnisport commencent à accumuler plusieurs sections. Il y a aussi plusieurs clubs de foot à Bordeaux, donc effectivement, les Girondins de Bordeaux Omnisport, c'est 1881, Mais les Girondins de Bordeaux Football Club arrivent un petit peu plus tard, puisqu'ils seront, ce club-là sera issu de la fusion de plusieurs clubs du CRU. Et nous aurons en 1936 la première saison effectuée sous licence amateur pour les Girondins de Bordeaux, et en 1937 sous licence professionnelle.
Alors, ce statut professionnel qui arrive en 1937, les premières années de professionnalisme, justement, vont être marquées par l'apport et l'influence de l'Espagne.
Exactement, on en parlait concernant la Real Sociedad, ben, de Saint-Sébastien. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent tenter leur chance en France, notamment de la Real Unión à Irún et de la Real Sociedad, qui en 1935-36 commencent à arriver. Et c'est pas non plus qu'une coïncidence, parce qu'on sait qu'il est possible qu'une guerre civile éclate en Espagne, et ce qui va arriver en 1936. Donc certains joueurs vont être contraints, forcés, et certaines familles même, de quitter le pays, soit parce que de 36 à 39, il y a des bombardements, et c'est notamment le cas dans le Pays Basque espagnol, où beaucoup de familles franchissent les Pyrénées pour venir à Bordeaux, pour venir à Pau, pour venir dans la région, n'ont pas le choix que de fuir les bombardements. Et il y a une autre catégorie de population espagnole qui vient, notamment les républicains, et notamment des gens qui arrivent de Catalogne espagnole, qui eux sont chassés par le pouvoir qui est en train de se mettre en place, donc ils sont aussi sous les bombes, mais en plus leur étiquette politique fait qu'ils n'ont plus le choix et ils sont obligés de partir avant d'être faits prisonniers ou voire exécutés. Et c'est donc l'apport de ces joueurs-là. Alors certains arrivent directement à Bordeaux, d'autres sont cantonnés dans des camps, on ne va pas dire de concentration, mais ça y ressemblera par la suite.
C'est le nom qu'ils portent d'ailleurs à l'époque.
C'est le nom qu'ils portent. Mais au début, c'est vrai qu'on ne dit pas forcément comme ça, on dit camp de prisonniers, camp de réfugiés à la base, notamment dans le camp de Gurs près de Laurent-Sainte-Marie. Il y en a un autre côté Rivesaltes. Et en fait, comme il y a déjà quelques joueurs bordelais, espagnols qui sont dans les rangs bordelais depuis 1935-36, et ben en fait, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, Benito Díaz, est espagnol et il sait que dans les camps de réfugiés, il y a des joueurs de grand talent qui jouaient notamment au FC Barcelone, qui jouaient dans des grands clubs, qui sont massés dans des baraquements de fortune. Et en fait, il a l'ingénieuse idée d'aller les chercher sportivement mais aussi humainement, et il va se mettre à recruter, notamment à Gurs, dans le camp de Gurs, des joueurs de grand talent. Hein, pour préciser, faire vite, ces joueurs-là aujourd'hui, ils pourraient jouer au Real Madrid ou FC Barcelone sans problème, donc c'était vraiment des joueurs de grand talent, et ils garnissent les rangs des Girondins de Bordeaux avec des footballeurs du CRU aussi qui sont très bons, notamment René Galis, des joueurs comme ça. Et Bordeaux, lors de sa première saison en amateur en 1936, ravit le titre de champion de France amateur et passe professionnel en 37. Et avec l'apport de ces joueurs jusqu'en 1939-1940, les Girondins de Bordeaux gagnent leur premier titre officiel professionnel en 1941, la Coupe de France à Paris. When they finish making the little vice cracks, hear them cheer the good old referee. Oh, I do like to see a game of football when Saturday afternoon comes round. Hip hooray, when they break away, the cheers roll round the ground. Oh, I do like to see a game of football, it's great upon my soul. The best team wins, but all the fun begins when our side scores a goal.
Et cette histoire des réfugiés espagnols dans la région, on l'a notamment largement traité dans le tout premier épisode de Podcasting consacré à la base sous-marine et à sa construction. Laurent, après la guerre, Bordeaux reprend en Division 2. Le club remonte en 1949 et dès la saison suivante réussit un premier fait d'armes en championnat, un deuxième fait d'armes après la Coupe de France que vous avez évoqué à l'instant. Et il est d'ailleurs le premier club à réussir cela.
Exactement. Il est sacré champion de France l'année de sa remontée en première division. Vous l'avez dit, en 1949-1950, avec une génération de joueurs extraordinaires que sont les Galis, les Ziatek, enfin ces joueurs-là qui sont des légendes à Bordeaux. Et effectivement, ça n'est jamais arrivé dans le pays. Et depuis, ça n'est arrivé que trois fois. L'AS Saint-Étienne dans les années 60 et l'AS Monaco Football Club dans les années 70. Donc vous voyez, c'est quand même pas commun qu'un club qui remonte de deuxième division en première soit sacré champion de France l'année qui suit l'année de la remontée. Et c'est vraiment une prouesse incroyable. Et ces joueurs-là, aujourd'hui, ont laissé un souvenir, même si ça fait quand même 70 ans, un souvenir impérissable à Bordeaux et dans l'histoire de ce club. Et ça a forgé effectivement l'identité de ce club. Et il faudra attendre les années 80 et la génération Giresse pour que les Girondins soient de nouveau sacrés champions de France. Donc il a fallu attendre quand même un bon moment.
Ils ont laissé un tel souvenir que pour beaucoup de supporters, le Stade de l'Atlantique, qui héberge aujourd'hui les matchs des Girondins de Bordeaux, ne s'appelle pas Stade de l'Atlantique. Comment s'appelle-t-il pour eux ?
Alors pour les supporters, effectivement, c'est une version officieuse, hein, ça n'a jamais été validé. C'est le Stade René Galis dont nous parlions, qui est un joueur emblématique des Girondins, qui aussi, au-delà de ses capacités de footballeur, il a été international en équipe de France, a d'autres valeurs et a combattu l'ennemi aussi en sang engageant dans les forces françaises, notamment, il a été notamment du débarquement en Provence, et c'est aussi, ce sont ses faits d'armes, il a été blessé au combat par un éclat d'obus dans le mollet notamment, ce qui ne l'a heureusement pour lui pas empêché de poursuivre, de reprendre la carrière de footballeur professionnel par la suite, et donc il y a des valeurs fortes, René Galis incarne ces valeurs, celles qui sont aussi les Girondins de Bordeaux, et ce n'est pas pour rien que le vote des supporters organisé notamment par les Ultramarines est désigné ce joueur-là, voilà, pour porter ce nom au stade, au Matmut Atlantique, qui reste officiellement le Matmut Atlantique.
On reste sur l'équipe de ces années-là, parce qu'en 1950, et c'est une histoire un peu oubliée aujourd'hui, mais Bordeaux manque de peu une consécration européenne en Coupe Latine.
Exactement. C'est un tournoi qui se dispute à Lisbonne, et les Girondins ont bien failli arracher une Coupe d'Europe en 1950, et ça s'est joué à peu de choses au cours d'un match contre Benfica. C'est un match qui a dû être rejoué. Et à l'époque, vous savez, il n'y avait pas droit au remplacement. On avait des blessés, ben on jouait soit blessé, soit sans le joueur, mais on ne remplaçait pas. Et s'il y avait match nul, ben prolongation. Et s'il y avait de nouveau match nul, on rejouait le match. Et si c'était encore match nul, ben ça se jouait au tirage au sort. Enfin voilà, c'était au finish. Donc c'était compliqué. Et les Girondins ont perdu de la sorte. Alors le tirage au sort, c'est à la pièce, c'est quand même dur. Et au finish, c'était aussi celui le premier qui marque qui a gagné. On a appelé ça après la mort subite, quelques décennies plus tard. Mais effectivement, les Girondins auraient pu remonter en division 1, être champion de France et être champion d'Europe. Voilà, c'était des bonnes bases quand même pour la suite. Et c'est un regret, mais le parcours était tout à fait honorable à cette époque-là. Et ça aussi, ça s'inscrit dans les heures glorieuses du club.
Et ce parcours-là, de remonter de D2 en D1 et jusqu'à être champion d'Europe, c'est quasiment inédit, puisque à ma connaissance, seul Nottingham Forest a réussi une telle prouesse dans l'histoire du football européen.
Oui, Nottingham Forest qui compte plus de titres de champion d'Europe que de champion d'Angleterre.
Pour revenir aux deux décennies suivantes pour le club des Girondins de Bordeaux, eh bien, elles vont être beaucoup plus compliquées, hein. Il y aura des descentes en D2, des saisons moyennes, deux finales de Coupe de France tout de même, mais aussi quelques révélations et de futurs grands joueurs qui pointent le bout de leur nez.
Oui, des finales de Coupe de France, certes perdues, mais quand même, les années 60, Bordeaux joue aussi la Coupe d'Europe face au Borussia Dortmund, et des joueurs qui émergent notamment, on pense aux plus célèbres peut-être d'entre eux, en tout cas virtuose, Roland Guillas, que l'on salue, Roland Guillas qui a joué au football jusque même après la retraite et qui est devenu international, que l'on appelait le petit Copa. Ce n'est pas pour rien, c'était affectueux. Ça a été un peu compliqué pour lui au départ d'entendre ça, mais il a joué avec Raymond Copa aussi en équipe de France et finalement ils s'entendaient très bien. Ils ont joué une ou deux fois ensemble et ça a donné une association du feu de Dieu. Et Raymond Copa qui a toujours respecté aussi Roland Guillas, qui était lui aussi, qui est toujours une figure emblématique des Girondins de Bordeaux, un meneur de jeu incroyable qui faisait briller les autres, qui était capable de marquer, une patte magique, un superbe, superbe joueur digne des plus grands que le pays ait pu produire.
Aïe, 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 la vie est belle, tout va vraiment très très mal, mais je m'en fiche, moi dimanche, je vais voir le
Et puis, fin des années 70, une très belle génération et un futur grand joueur commence à faire parler de lui.
Et oui, les années 70, alors là on est un peu moins dans le fast, on fait aussi avec beaucoup de joueurs issus de la formation du club. Faut le dire, dans les années 70, les Girondins luttent plus pour le maintien que pour les places européennes. Et effectivement, il y a un joueur, on parlait de Virtuose, qui en est un aussi en devenir, qui commence à pointer le bout de son nez, c'est Alain Giresse, qui est vite repéré comme potentiel grand joueur, ce sera le cas par la suite. Il est même international français, il ne va plus l'être, il va l'être de nouveau quelques années après. Alain Giresse qui mène ce collectif de joueurs besogneux, parfois même rugueux, selon les termes de Jean-Marc Furlan, qui est entraîneur de la JOCR aujourd'hui, qui en parle avec beaucoup d'humour et beaucoup d'amour. Il disait on était des besogneux, on mettait des coups, c'est vrai, mais on avait une grande solidarité et on a vu effectivement Alain Giresse éclore, traîner dans son sillage des joueurs qui sont devenus internationaux. Aussi, on pense à Philippe Bergerot, le gardien de but, on a eu Jean-François Domergue, on a eu beaucoup de joueurs, jusqu'à ce que effectivement le club se structure un peu plus et que le futur président Claude Besse, qui était trésorier du club, donc prenne le rôle de président et se dise qu'il allait créer une grosse équipe ou recréer une grosse équipe au Girondins de Bordeaux dans les années 80 pour flirter avec les meilleurs clubs français et les meilleurs clubs européens.
Eh bien Laurent, on aura justement l'occasion d'explorer tout cela demain. L'épisode du jour se termine en 1979, nous sommes à l'aube d'une décennie en or pour les Girondins que nous aborderons avec vous dans le deuxième volet de cette série. Merci beaucoup Laurent Brun d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre coécrit avec Julien Bay, Les Scures et les Girondins aux éditions Sud-Ouest. Je rappelle aussi que l'interview de Pascal Rigaud, possible repreneur des Girondins, est à retrouver sur le site de Podcasting et sur toutes les plateformes d'écoute. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feignet, Mathilde Leuil et Marion Ruot, programmation musicale Gabriel Taïeb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région, qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.